RFI et France 24 présentent
Mardi politique.
Bonsoir, c'est l'heure de politique sur France 24 et RFI. Bonsoir Frédéric Rivière.
Bonsoir Rosine, bonsoir à tous.
Ensemble, nous recevons Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion des Territoires et chargée des relations avec les collectivités territoriales. Bonsoir et bienvenue à vous.
Bonsoir.
Alors ce week-end, le jeune parti La République En Marche, créé par Emmanuel Macron, organisait ses premières universités d'été, d'ailleurs rebaptisées Campus des Territoires. C'était à Bordeaux. Le parti est en pleine organisation des municipales et cherche des alliés. Alors ça a été un week-end marqué par un François Bayrou un peu fâché. François Bayrou qui est le patron du Modem, dont, je le rappelle, vous êtes issu. Alors, qu'est-ce qu'il reproche aux marcheurs, François Bayrou ?
Ah, il ne reproche rien de particulier aux marcheurs, sauf qu'il a expliqué, surtout en parlant des municipales, que les élections municipales étaient pour lui des élections locales et que...
On votait pour un homme ou une femme et un projet, mais pas pour une étiquette.
Voilà. Eh ben voilà, vous avez tout dit.
Non, mais ça veut dire quand même qu'il considère que La République En Marche trahit un peu son essence.
Il a rappelé que l'essence, effectivement, de La République En Marche était un esprit girondin, et un double sens, puisque nous étions à Bordeaux. Évidemment, il a rappelé que les contingences, si je puis dire, d'étiquettes politiques lors des élections municipales n'ont pas le même poids que lors d'élections législatives qui succèdent à une élection présidentielle, par exemple, et que il faut pas s'imaginer que le fait d'avoir une étiquette assure une victoire aux élections municipales. Chacun sait, j'ai été maire 25 ans, que lorsqu'on fait une élection municipale, on cherche à rassembler sur un éventail politique, je dirais, assez large pour que chacun puisse se reconnaître à l'intérieur d'une liste.
Marc Fesneau, qui comme vous est Modem et qui comme vous est au gouvernement, il est secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement.
Il est même ministre.
Et il est ministre, chargé des relations avec le Parlement, a déploré, je le cite, la tentation macronienne de vouloir être majoritaire seul. Est-ce que vous diriez les choses comme ça, vous aussi?
Le Modem a toujours eu la même position. Rappelez-vous, quand il y a eu la création de l'UMP, François Bayrou avait défendu la cause du pluralisme en politique et qu'une majorité n'est pas forcément fondée sur un seul parti. Qu'une majorité, ça peut être une alliance avec un ou deux partis. D'ailleurs, c'est le cas actuellement, puisque nous avons pris position, comme vous le savez, pour Emmanuel Macron avant les élections présidentielles. Oui. Et nous avons fait une alliance à deux pour cette campagne électorale présidentielle et qui s'est évidemment
gagnante.
Qui était gagnante. Et donc, ce qui veut dire que effectivement, le pluralisme doit aussi exister dans la majorité.
Mais il y a clairement quand même un problème d'ancrage, effectivement. Est-ce que vous considérez qu'il faut effectivement faire des alliances avec des partis déjà... Bon, on voit le cas à Bordeaux, par exemple. On sait que François Bayrou est un peu fâché parce que La République En Marche a investi un candidat alors que le Modem est allié avec le dauphin de
Alain Juppé
à Bordeaux. Donc là, il y a un truc effectivement qui va pas.
Oui, et c'est évident, puisque nous avons toujours été alliés d'Alain Juppé. Nous avons même, je le rappelle, dans la primaire soutenu Alain Juppé. Et donc, ça nous semblait naturel que le sortant, qui avait pris des positions en plus pro-gouvernemental, on n'imaginait pas forcément qu'il ait un candidat en marche contre lui.
Donc ça, c'est une mauvaise manière
qu'il
vous ait faite.
Après, les partis politiques et les organisations politiques font ce qu'elles veulent, mais il est évident que, en plus, le numéro 2 de la liste à Bordeaux et Modem, et le numéro 1, donc, était LR juppéiste. C'est vrai que ça a été pour nous une surprise que de voir peut-être aussi la rapidité avec laquelle cela s'est fait. Mais bon, c'est un épisode ça n'est pas pour cela que l'alliance entre En Marche et le MoDem se soit fragilisée. C'est comme dans toute famille.
Oui,
il y a parfois des histoires de famille.
Absolument.
Voilà.
Je voudrais qu'on évoque Sylvie Goulard, parce que il se peut d'ailleurs aussi que ce soit l'une des explications des crispations entre le MoDem, en tout cas entre François Bayrou et La République En Marche, puisque Sylvie Goulard, qui avait été très brièvement ministre des Armées, avait dû démissionner dans le cadre de l'affaire des assistants parlementaires des eurodéputés MoDem.
Elle est nommée commissaire européenne.
Elle est nommée, on l'a appris aujourd'hui, commissaire européenne, chargée du marché intérieur, de l'industrie et de la défense. Et au moment même où on l'apprenait, on apprenait aussi qu'elle était entendue par la police dans le cadre de cette enquête. Est-ce que ça n'est pas finalement un peu regrettable pour l'image de la France en Europe ?
Écoutez, c'est une coïncidence malheureuse, si je puis dire, effectivement.
À tout le moins.
Je n'ai pas à me prononcer sur ces affaires qui sont aujourd'hui.
Mais sur le choix de la personne, c'est-à-dire, elle a quitté le gouvernement, donc on considère qu'elle ne pouvait plus être ministre, mais elle peut être commissaire européenne.
Écoutez, c'est le choix du président de la République, c'est de lui que.
C'était pas le vôtre.
Mais je n'ai pas de commentaire à faire sur le choix du président de la République.
Alors on va parler des territoires, bien sûr, mais avant on reste un peu sur la politique. Donc l'exécutif le dit sur tous les tons depuis plusieurs semaines déjà, on change de méthode dans l'art de gouverner, donc on n'assène plus, on ne décide plus seul, on consulte et on consulte encore. Est-ce que la hantise des gilets jaunes, vous qui avez fait un tour avec le grand débat avec le président de la République, est-ce que cette hantise pèse encore sur le président, ce qui l'a obligé un peu à changer son fusil d'épaule, sa méthode, dans son art de gouverner?
Je ne parlerai pas de hantise, mais il est certain que les gilets jaunes ont été un événement qui a marqué notre pays, et bien entendu, les gouvernants que nous sommes, nous devons aussi tirer les leçons de ce mouvement, ou pour le moins écouter, entendre ce qu'ils nous ont dit, même si je dois préciser que entre les gilets jaunes du départ, si je puis dire, et les manifestations très violentes, la politisation extrémiste qui s'est installée, il faut faire la différence. Mais en tout état de cause, le grand débat auquel a participé le président de la République, il l'a fait dans toute la France, a sûrement enrichi, si je puis dire, sa réflexion et orienté la manière dont il exerce la présidence de la République, en demandant à son gouvernement, par exemple, d'être en permanence attentif à ce qui touche la vie quotidienne de la population. Et pour répondre, évidemment, à ce monde rural qui s'est parfois senti délaissé, ou qui parfois l'était d'ailleurs, ça venait de loin. Alors bien sûr, il ne s'agit pas de rejeter la faute sur les gouvernements précédents, mais enfin, ça n'est pas nouveau, c'est pas quelque chose qui s'est fait en 18 mois ou en 2 ans. Il y a eu depuis un certain nombre d'années une évolution de la société, avec une urbanisation qui s'est développée, etc., et une ruralité qui a été plus ou moins abandonnée, et qui nécessite qu'on se penche sur elle. Et c'est la raison d'ailleurs pourquoi je mène une politique aussi qui est aujourd'hui connue sous le nom de agenda rural. C'est à l'occasion de rencontres avec l'Association des maires ruraux qu'ils m'ont proposé de, au fond, travailler sur un agenda rural. Je précise que c'est une idée européenne, puisque c'est une idée qui a été développée au niveau européen, agenda rural européen, et que les Français ont pris une part, les députés français ont pris une part importante, et nous avons appliqué, au fond, sur notre territoire, cet agenda rural. J'ai confié une mission à 5 personnes qui vivent dans la ruralité, un député, un sénateur, plus 3 élus, qui ont apporté des propositions, et ensuite il faudra mettre en œuvre un certain nombre de propositions.
Pour revenir à ce qu'évoquait Roselyne avec finalement l'effet gilet jaune en quelque sorte, on a l'impression qu'on assiste depuis à une multiplication des débats, des consultations sur tous les sujets. Est-ce que ça n'est pas d'une certaine manière un renoncement à décider ?
Ah non, ça n'est pas un renoncement à décider. En tout cas, je peux vous dire que...
Ou en tout cas, une peur de décider.
Non, c'est pas
de l'audace en moins, on va dire.
Ah non, ça, je ne crois pas qu'on puisse dire cela ni du président de la République, ni du Premier ministre. Ils sont au contraire très déterminés, mais, par exemple, sur les retraites, le président de la République a décidé qu'après la consultation des syndicats, il fallait aussi organiser des consultations sur les territoires pour ressentir, au fond, ce que nos concitoyens ont à dire de la réforme des retraites. Mais bien sûr, à un moment, ensuite, il faudra écrire la loi et donc décider.
Alors, vous êtes donc ministre des territoires, vous en avez parlé, de ces territoires abandonnés, mais en France, on a tendance à être un peu manichéen et, dans le fond, à dire qu'entre, il y a les territoires qui gagnent, c'est-à-dire les métropoles ou les grandes villes qui sont près de ces métropoles, et puis ceux qui sont abandonnés, voire désertifiés. Est-ce que c'est pas tout à fait vrai? Certaines régions de France, on voit que certaines régions rurales s'en sortent bien, alors qu'elles sont pas près des grandes villes et des métropoles. Alors, pour qu'un territoire s'en sorte bien, que faut-il faire? Puisque visiblement, il y en a.
Alors,
c'est quoi là?
Je vous remercie de dire cela, parce que je crois que on a trop tendance à dire la ruralité, effectivement, ou les villes, etc. Il y a aussi de la pauvreté dans les villes, et il y a des ruralités heureuses. Un jour, je suis allée visiter une commune rurale, c'était en Loire-Atlantique, et c'était une femme qui était maire, elle m'a dit, vous êtes ici dans une commune rurale heureuse. Et il y a des communes rurales qui se développent, parce qu'il y a aussi des tas d'initiatives
entre les collectivités et les entrepreneurs, par exemple.
Absolument. Et il y a plein d'idées, il y a plein de créations. Enfin, prenons un domaine comme, je prends de Marcillac, dans le Gers. Qui aurait cru qu'il y aurait un festival de musique de jazz qui attirerait autant de personnes dans un petit village où il n'y avait aucune vocation à cela. Parce qu'il y a eu un jour un principal de collège qui aimait le jazz et qui a créé et qui a fait cet événement formidable. Et puis, il y a des initiatives économiques.
Il y a des bassins d'emplois ruraux dans lesquels le chômage est deux fois, voire deux fois et demi inférieur à la moyenne nationale.
Vous prenez la Loire-Atlantique, vous prenez Vendée, vous allez en ruralité en Vendée, il y a presque pas de chômage où il est à 3% ou 4%. Ce sont des réussites économiques parce que il y a eu des créateurs, des initiatives, des gens qui ont l'audace d'oser et il y en a. Bien sûr, dans le monde de l'économie, mais il y a aussi
avec l'aide des élus parfois.
Et avec des élus qui sont parfois des gens pleins d'initiatives. Ouais. Alors bien sûr, l'État doit accompagner. Puis l'État, et c'est un peu ce que me disaient ceux qui représentaient la ruralité dans la mission que j'avais confiée, c'est au fond, eux, ils disent qu'il faut une géographie prioritaire de la ruralité. C'est-à-dire que il faut arrêter de penser qu'il faut faire partout la même chose.
Parce que certains sont allés voir ces modèles qui fonctionnent en pensant qu'ils pouvaient les développer partout, mais ça n'est pas le cas.
Et c'est ce que j'appelle, et ce que le gouvernement appelle, au fond, le droit à la différenciation. C'est-à-dire que, dans un cadre républicain, pour véritablement parler, d'égalité, eh bien, il faut apporter plus à certains territoires qu'à d'autres, parce que d'autres se suffisent à eux-mêmes. Et puis, naturellement, quelque chose d'important aussi, et c'est très important de ne pas opposer la ville et la campagne, au contraire de créer, je dirais, des contrats de réciprocité pour que les urbains aussi, qui profitent de la campagne, puisque la campagne leur apporte aussi certains loisirs, certains espaces, il faut que les uns et les autres vivent ensemble et s'entraident.
Est-ce que ce dont nous parlons n'est pas une sorte de réfutation de la théorie du ruissellement qui est chère à Emmanuel Macron ? Alors, cette théorie voudrait que les grandes métropoles, leur croissance, irriguent les zones rurales, comme Emmanuel Macron l'avait expliqué, les riches, en quelque sorte, irrigueraient les pauvres. Est-ce que ça n'est pas une réfutation ?
Non, parce que ça existe aussi. Par exemple... Vous savez qu'à Toulouse, il y a toute l'industrie aéronautique, bien évidemment. Et un jour, j'ai été marquée, j'étais en Corrèze, et dans une vallée de Corrèze, ils m'ont expliqué que, qui était un département très rural, toute la sous-traitance qui était installée là, c'était de la sous-traitance de l'aéronautique. Et au fond, il faut imaginer que ce qui se développe dans des grandes métropoles peut interférer aussi assez loin d'ailleurs dans des vallées industrielles qui avaient autrefois parfois d'autres industries, mais une main d'œuvre qui était déjà industrieuse, qui s'est convertie et qui a permis le développement industriel dans des départements ruraux. Donc je pense qu'il y a les deux. Il y a le ruissellement, effectivement, et puis construire avec l'aide de l'État aussi des accords de réciprocité économique et financière entre les métropoles et les campagnes qui l'entourent.
Y a un sujet à propos de ruralité qui divise, c'est la question de l'utilisation des pesticides aux abords des habitations. Une consultation, encore une, a été lancée lundi par le gouvernement sur le sujet pour 3 semaines. L'idée, ce serait de s'en tenir à 5 à 10 mètres en fonction des cultures. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de paradoxe à reconnaître qu'il y a un danger et à envisager des distances aussi faibles? Parce que vous imaginez bien que 5 mètres ou 10 mètres, quand les fenêtres sont ouvertes, ça vous protège pas de grand-chose quand même.
Oui, il y en a d'autres qui disent 150 mètres. Et donc moi, je vais vous dire sur l'écologie du quotidien, et tout à l'heure, je vous parlais du droit à la différenciation, je crois qu'il faut aussi, je suis ministre, j'ai longtemps été élue locale, je crois que l'État doit travailler avec les collectivités territoriales pour mettre en place des réglementations qui s'adaptent au territoire, parce que c'est
et
pas
donc,
la même chose.
Écoutez les maires qui, par exemple, préconisent des distances très importantes.
Ben, écoutez, il y a certains endroits où c'est possible, certains endroits où c'est moins possible. Donc, il faut faire des solutions intelligentes, en sachant que certains produits, bien sûr, ont été reconnus dangereux par l'OMS, et qu'il faut donc prendre des décisions. Mais je pense qu'il faut toujours associer l'État et les collectivités territoriales pour faire quelque chose de raisonnable. Et les associations, bien évidemment.
Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Merci.
Merci Frédéric, merci Madame la Ministre d'avoir été notre invitée dans Mardi Politique. Merci à Charlotte Thurien-Tomaca et à Camille Néran d'avoir préparé cette émission. Et merci à toute l'équipe technique. À très vite.
Appelez-nous.